Des hommes? Non, rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, les filmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Did you hear that?
Yeah.
Au sommaire aujourd'hui, encore une émission où on va essayer d'égayer votre été avec des lectures de notre choix. Une émission spéciale sortie bouquin, avec donc un livre épatant sorti chez Carlotta Film, ou Carlotta, hein, voilà, parce que pour les bouquins j'ai toujours un peu de mal à dire Carlotta Film, parce que pour moi ça se rattache au Blu-ray DVD. Donc on débute avec un livre sorti chez Carlotta qui s'appelle Questions de cinéma, c'est le volume 2 qui est signé Nicolas Saada. Toujours chez Carlotta, le cinéma mondial vu de Cannes par Freddy Wong. On reviendra énormément là sur des nouveautés parues chez Marest Éditeur qui a beaucoup d'actualités en ce moment. Alors il y a un ouvrage collectif qui est dirigé par Jacques Kebadian qui s'appelle Un mur contre l'oubli, 16 récits arméniens. Il y a Ciné Soliste qui réunit une sélection effectuée par Guillaume Loué des critiques de cinéma signée Philippe Collin, un ouvrage préfacé par l'ami Noël Herpin qui est déjà venu dans cette émission, ainsi que dans le Ciné Club qu'on co-organise avec le service culturel de la ville de Tourotte. Le dernier livre dont je vais vous parler dans les grands formats sortis chez Marest, c'est New York, les Safdie et Uncut Games de Nicolas Moreno. Et puis après, je vais vous parler d'autres livres signés Marest Éditeur, mais qui sont des petits formats. C'est la collection Marès Bis qui continue, c'est-à-dire une super collection de cinéma à prix très abordable. Il va y avoir David Fincher par Juliette Goffard, Bertrand Blier par Vincent Roussel et Preston Sturges par Marc Serizuelo. Et ce que je vais vous proposer, c'est de réécouter quelques échanges qu'on avait eus avec Vincent Roussel, justement au sujet de cet ouvrage et au sujet de Bertrand Blier. Je pense que ça va vous plaire, chers auditrices et auditeurs. Et puis on évoquera, avec son auteur Alain Trogneux, le livre « La somme des cinémas, 130 ans d'histoire », paru chez Ancrage Éditions. Et oui, parce que nous, on est des petits gars des Hauts-de-France, et quand il y a un auteur amiénois qui nous invite à faire connaissance avec l'histoire des salles de cinéma dans la Somme, dans le département de la Somme, donc le 80, on est forcément très très intrigués. C'est paru chez Ancrage Éditions, donc nous on s'est dit, avec l'ami Thomas Roland, on va aller à sa rencontre. On remercie d'ailleurs, hein, l'équipe de Culture Prohibée remercie pour cette émission Lucie Mautier, Séverine Danflou et Pierre-Julien Marest pour leur aide. Et puis donc, oui, j'ai vendu la mèche. Donc vous savez qu'il est là, hein, le fameux loup-garou Picard qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes chroniques pour divers médias. Bonjour Thomas.
Bonjour Jérôme et bonjour à toutes.
Je débute cette émission en tant que rédacteur en chef qui décide de faire ce qu'il veut dans son émission. Et je vais vous parler tout de suite d'un livre. Je suis ravi de pouvoir chroniquer. Signé Nicolas Saada. On avait déjà chroniqué le premier qui s'appelait Questions de cinéma. Voilà, c'est Questions de cinéma volume 2 et c'est paru chez Carlotta Film. On va de suite commencer par le livre de Nicolas Saada qui s'appelle Questions de cinéma. Alors c'est le volume 2, hein, on vous avait déjà parlé du volume 1 qui regroupe des entretiens et conversations captés entre 1986 et 2025. Alors, on ne présente plus Nicolas Saada, hein, qui est également un très bon réalisateur, entre autres de Taj Mahal, voilà, un film vraiment hitchcockien en diable. Alors, Nicolas Saada, il nous donne à lire là, en plus, ce qui est très intéressant dans ce volume 2, toute une succession d'entretiens qui sont des entretiens qui sont inédits pour la plupart. Parce que dans le premier volume, c'était des entretiens déjà publiés, qui étaient complétés, tout ça. Là, on est sur de l'inédit. Et évidemment, son regard de critique aiguisé, mais également de cinéaste, fait qu'il y a une proximité différente avec les personnalités qui sont interviewées. Alors, excusez du peu, hein, dans les personnalités interviewées, vous allez retrouver Dario Argento, Nicolas Cage,
Jane Campion, John Carpenter, David Cronenberg, Abel Ferrara, Luchino Gastel, Troy Arc, selon comment on le prononce, le compositeur Maurice Jarre, Spike Lee, Michel Legrand, David Lynch, Sophie Maintigneux, Ennio Morricone, Walter Murch, Serge Silberman, Walter Murch c'est une de mes préférées moi, Peter Sujitsky, Douglas Trumbull qu'on avait également reçu d'ailleurs dans cette émission comme d'autres hein, là, que je viens de vous citer, Agnès Varda, Peter Weir et John Woo, hein, c'est dans l'ordre alphabétique, on se complique pas la vie, on présente ça dans un ordre qui permet au lecteur de s'y retrouver facilement. Alors moi, j'ai quelques morceaux choisis que j'ai retenus. Par exemple, j'aime beaucoup l'interview de David Cronenberg parce que il aborde le fait que les cicatrices pour Cronenberg sont des sculptures du corps. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous ses films à venir. Et puis, il aborde même des éléments qui sont dans cet entretien qui compose pour moi le sel de son dernier film, Les Linceuls, par exemple. C'est là qu'on voit que cette interview, elle est plutôt très très perspicace de la part de Nicolas Saada, qui pointe très très bien les thématiques développées chez David Cronenberg. Alors après, ce qui est rigolo aussi, c'est qu'il a aussi réussi à avoir une interview avec Morricone. Je peux vous dire que, en tant que critique de cinéma qui a essayé longtemps d'interviewer Morricone, ça a toujours été compliqué d'avoir Morricone. C'est une personnalité très particulière. Parfois, il ne vous autorisait pas d'interview, mais il voulait bien que vous veniez chez lui. Parfois, il voulait bien que vous le preniez en photo, mais il ne voulait pas répondre aux questions. Il n'y a que dans les dernières années de sa vie qu'on a réussi à avoir des choses de sa part. Et comment là, moi, ce que j'aime beaucoup, évidemment, en tant que fan de Diallo, c'est toute la partie où Nicolas Saada le questionne justement sur la manière dont il a mis en musique Le chat à neuf queues de Dario Argento, parce que c'est une manière très expérimentale de faire de la musique. Je vous laisse découvrir ça dans le livre. Et puis, pour moi, je vous dis, hein, y avait Walter Murch qui m'a vraiment... Vraiment épaté, hein, l'interview avec Walter Murch, qui est une des plus longues de l'ouvrage, hein, qui est vraiment une interview très très impressionnante. Et on oublie qui c'est peut-être Walter Murch, mais c'est un monteur, c'est un designer sonore, c'est un scénariste, c'est un réalisateur. Il a travaillé par exemple sur Apocalypse Now, sur Le Parrain 3, sur plein de films, THX 1138, Conversation secrète, tout ça. Donc c'est un des bras droits de Coppola, donc il sait de quoi il parle. Et surtout, il a une connaissance encyclopédique sur le cinéma, un peu à l'image de Vittorio Storaro qu'on avait rencontré dans cette émission. Et il fait rentrer le cinéma dans une histoire de l'art global, comme Storaro d'ailleurs, ce qui fait que lui ne fait pas référence forcément à d'autres films, il peut faire référence à de la peinture, il peut faire référence à de la sculpture, et c'est la manière dont il va composer ses sons, ses images. Il raconte par exemple les premières utilisations du numérique qui sont assez passionnantes. Il explique aussi en quoi pour lui le cinéma n'est qu'une étape en fait technique parmi d'autres étapes, en tout ça en le remettant en perspective, bien sûr, hein, je vous fais une version courte. Il est aussi assez passionnant en expliquant que il s'intéresse, je pense, à la psychanalyse, ce monsieur, mais que le cinéma, c'est la grammaire un peu de notre inconscient. C'est-à-dire que quand on raconte quelque chose, on essaye toujours de le scénariser, de le mettre en scène de la même manière qu'on peut voir un film. Et puis, il revient aussi sur la télévision, il revient aussi sur ce qui a, pour lui, enfin, son travail, qui lui, il se voit comme un chercheur, mais ce qui a pour lui aussi été une période importante, le moment où les réalisateurs ont pris le contrôle de leur film à Hollywood. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses très, très intéressantes, et on ne peut pas tout développer. Il y a aussi Peter Sujitsky, qui est, lui aussi, qui est peut-être un peu oublié, l'entretien est énorme. Lui, c'est un directeur de la photo assez incroyable. Alors, parmi ses films les plus connus, il y a L'Empire Contre-Attaque, voilà, Star Wars 5 ou The Rocky Horror Picture Show, mais il a fait énormément, énormément de choses. Hein. Et lui, il explique par exemple, ce que je partage tout à fait, son point de vue sur la série Adolescence, où il explique qu'à un moment, trop de plan-séquences tue le plan-séquence, et c'est plutôt bien amené, en expliquant que bon, c'est un peu la mode du plan-séquence aujourd'hui, je crois qu'on est tous d'accord pour le dire, parce que les outils numériques le permettent plus facilement. Et lui, il explique qu'il aurait bien voulu voir dans cette série autre chose qu'un plan-séquence, même si au début c'est très efficace, et après ça tourne en rond, quoi, voilà. Et ce que je partage, et puis... Dans les morceaux choisis, je m'arrêterai là, il y a Douglas Trumbull qui lui raconte quelque chose qu'il nous avait déjà raconté à nous aussi, c'est comment le son rapport, on va dire, à l'ufologie, à la présence d'OVNI. Et ça, je vous laisse découvrir ce qu'il en dit dans ce livre. Hein. Douglas Trumbull, on rappelle, un réalisateur qu'on avait eu le plaisir de rencontrer quand il était venu à Amiens, mais avant d'être un réalisateur, c'est aussi un formidable directeur des effets visuels qu'on peut voir à l'œuvre, par exemple, dans Rencontre du troisième type ou 2001, l'Odyssée de l'espace. Voilà ce qui fixe le niveau du monsieur. Donc ça s'appelle Question de cinéma, c'est le volume 2, c'est signé Nicolas Saada, c'est chez Carlotta, tout comme Le cinéma mondial vu de Cannes 1978-2025 par Freddie Wong, cinéaste et critique hongkongais. Alors, Freddie Wong, lui, il a couvert le festival de Cannes. Alors c'est marrant, il y a ses accréditations, tout ça dans le bouquin, en tant que journaliste sur 50 années en fait, hein, sur plusieurs décennies, quoi, 78 à 2025, peu ou prou 50 ans. Et là, il publie à la fois les archives de ses articles, mais aussi de ses chroniques, mais aussi des anecdotes, ses rencontres, ses points de vue sur l'évolution du cinéma hongkongais aussi, forcément, puisqu'il est lui-même hongkongais. Donc il y a des choses assez étonnantes. Par exemple, on découvre que pour lui, Voyage au bout de l'enfer, c'est un film très très réactionnaire et qu'il cautionne pas du tout la vision déployée dans ce film, contrairement à celle qui est déployée dans Apocalypse Now. D'ailleurs, il a parfois des critiques assez dures en fait, hein. C'est un spectateur assez dur, puisque lui-même il va jusqu'à dire d'Apocalypse Now que c'est une œuvre imparfaite mais sincère. Ensuite, alors, il raconte des choses assez rigolotes. Il raconte par exemple comment une panne de courant a interrompu la projection du Stoker de Tarkovsky et du coup il l'a vu en deux fois et que le film avait un peu tendance à l'ennuyer et à le fasciner en même temps et ce qui fait qu'il a qualifié cette séance de double surprise avec la coupure de courant. Enfin, il y a plein d'anecdotes comme ça, il y a des rencontres, la rencontre avec Kurosawa par exemple qui est assez passionnante et puis le livre est énorme hein, puisqu'il fait à peu près 500 pages, mais c'est intéressant aussi il ose dire des choses que peut-être tous les critiques de cinéma ne disent pas. Par exemple, au sujet de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, lui il dit: sans la présence de De Niro, j'aurais peut-être quitté la salle avant la fin du film. Voilà, et bon, moi je crois que je vous l'ai déjà dit hein, mais bon, je considère pas du tout que c'est un mauvais film, c'est un très bon film, mais je me suis quand même ennuyé dans ce film et je trouvais qu'il y avait un peu de cabotinage de la part de DiCaprio. Donc, visiblement, Freddie Wong, on partage des points communs sur ce film, la vision du film. Non, voilà. En tout cas, c'est passionnant et c'est super intéressant de voir le point de vue d'un Hongkongais, justement, sur le cinéma mondial et le rapport qu'il a à Cannes. Parce qu'il y a pas... Il y a aussi les rencontres qui ont été faites sur place. Il raconte beaucoup de choses. Hein. Il raconte ses relations avec Pierre Rissian, tout ça, on a déjà parlé de Pierre Rissian dans cette émission, personnage important de l'histoire du cinéma, voilà, qui est assez méconnu. Voilà, enfin, en tout cas, ça s'appelle Le cinéma mondial vu de Cannes, c'est de Freddie Wong, et c'est également chez Carlotta. Vous écoutez Culture Prohibée.
It's fine, I'm okay, it's okay. Yeah, I'm good, I'm good.
Cole, you know.
Hey, Howard, let me get a second, okay?
You want a second? Sure.
All right. What the fuck's going on, man?
On va parler de sorties qui arrivent là chez nos amis de Marest Éditeur. Je voulais surtout chroniquer New York, les samedis et Uncut Games. Mais Pierre-Julien Marest et Séverine Danflou m'ont envoyé d'autres ouvrages et je dois avouer que j'ai été particulièrement surpris par un des ouvrages. Vous allez voir. Je vais commencer par ce livre dont je voulais absolument parler. Bon, parce que moi, contrairement à Thomas, j'aime bien les frères Safdi. J'aime bien leur cinéma, je retrouve un peu de l'esprit des premiers Scorsese, à tout bien tout honneur évidemment, parce que Scorsese a fait la carrière qu'on sait. Mais j'aime bien les frères Safdi. Et là, l'auteur Nicolas Moreno nous propose un essai qui est vraiment il est enflammé, hein, comme le décrit l'éditeur d'ailleurs sur son site, est enflammé. C'est un hymne en fait au travail des frères Safdi, mais plus que ça, c'est un hymne en fait à l'histoire de ce cinéma indé états-unien et surtout en plus à cette ville qui est New York, quoi, hein, qui a quand même engendré quelques phénomènes. Pour n'en citer qu'un, par exemple, Abel Ferrara, dont la meilleure période est la période new-yorkaise, ça va sans dire, quoi. Et Uncut Games, donc ça parle de ce fameux film, hein, voilà, hein, que vous, certainement vous connaissez, avec Adam Sandler, et Uncut Games, c'est la pierre, en fait, brute, c'est le diamant unique, le bijou qui conduit Ad Patres, donc Howard, et les frères Safdie. Alors je dis Ad Patres parce que depuis, ils n'ont pas refait de films ensemble, hein, et ils ont fait des films séparément, mais en fin de compte, en lisant le livre, on s'aperçoit que tout le long de leur carrière, ils ont travaillé à la fois séparément et ensemble. Moi, là, ça fait un petit moment quand même. On va dire qu'ils se sont parallèlement, tous les deux, lancés dans des projets plus sportifs. Dont un qui, en France, a eu presque une promotion insupportable avec Timothée Chalamet qui était partout, Marty Suprême. Ça n'enlève rien aux qualités du film. Mais Timothée Chalamet, je n'en pouvais plus, moi. Voilà. Il revient dans ce livre, Nicolas Moreno, sur à la fois l'histoire de ces deux cinéastes qui décrit d'ailleurs assez justement trop ambitieux pour rester indépendant et assez malin pour échapper au piège de la grande distribution. Et c'est vrai qu'Uncut Games, pour moi, visiblement pour Nicolas Moreno aussi, hein, c'est un peu leur Mean Street, c'est leur pierre non taillée, hein, dont est fait leur cinéma frénétique. D'ailleurs, la frénésie revient souvent dans le livre. On parle souvent de l'aspect frénétique du cinéma des frères Safdie. Alors, Nicolas Moreno n'a de cesse de nous le rappeler, hein. Dans cet ouvrage qui ne se contente pas, en fait, de réciter le catéchisme habituel, d'une critique feignante au sujet des frangins Safdie. Non, Nicolas Moreno, lui, n'oublie pas de nous rappeler que derrière leur film, il y a par exemple le néo-réaliste Vittorio De Sica. C'est vraiment une de leurs inspirations, quoi. Hein, majeure, hein, d'ailleurs, hein, puisqu'il ne s'en cache pas. Et puis, est-ce qu'on parle... Je suis content d'avoir lu un peu un truc sur Sonic Youth, hein, groupe fort mélodique qui a accompagné mon adolescence. Alors, on en cause Sonic Youth ou pas? Voilà, bon, vous verrez. Il faut lire le livre pour comprendre cette petite référence. Et puis, l'auteur n'oublie rien, en fait. Il scrute une filmo, comme je vous le disais, parfois en solo, parfois en duo, et même parfois à trois, avec Alex Kalman, par exemple. En fait, on connaît peu de films d'eux, en fait, les frères Safdie, parce qu'on s'aperçoit, en lisant ce livre, que ce sont deux boulimiques, ce sont deux créateurs insatiable, quoi. Et puis, si le livre se permet parfois des rapprochements gonflés, dont un franchement gonflé avec Zoran Mamdani, tout est toujours assumé. Et puis surtout, tout est toujours vraiment, développé, argumenté, au poil. Donc au final, ce livre démontre que les frères Safdie, c'est un peu New York, et puis New York, c'est un peu les frères Safdie aussi, en vérité, quoi. La ville devenant un véritable personnage de cet ouvrage, comme elle l'est dans le cinéma des frangins, quoi. Et en ces temps troublés, on ne peut espérer qu'une chose, en fait, si ce n'est pas Mamdani, c'est peut-être le cinéma qui sauvera notre monde. Alors, un qui croyait certainement très fort au cinéma aussi, c'est Philippe Collin. Et là, ça fait vraiment partie des surprises, hein, parce que ce livre-là, j'avais pas spécialement prévu de le chroniquer. Et puis, je suis tombé en amour du bouquin, en fait. Hein. C'est Philippe Collin, alors certains le connaissent, parce qu'il était dans Le Masque et la Plume, par exemple. Enfin, c'est un critique de cinéma quand même connu en France. Et là, il y a une préface de Noël Herpe, qui est toujours, lui, intarissable, en particulier lorsqu'on parle de la critique de cinéma française et du cinéma français. Et là, il fait une très belle préface. Et puis, il y a cette anthologie qui est réunie par Guillaume Louet. Hein, Guillaume Louet qui présente Philippe Collin, qui est né en 1931, qui est mort en 2025, comme un cinéaste rare. Alors, c'est vrai qu'il est auteur de films assez étonnant, hein, comme Les derniers jours d'Emmanuel Kant. Il a fait des docus sur Marcel Duchamp, sur Dada, Jacques Derrida, sur c'est vraiment un cinéaste méconnu. Et à partir des années 70, il développe un vrai talent de critique de cinéma dans des gros médias. Hein, il travaille pour le magazine Elle. Il va travailler donc pour Le Masque et la Plume pendant 15 ans. Elle, pendant 27 ans quand même. Hein. Et il exprime des points de vue assez radicaux. Hein. Et il a un style assez aigu, tranchant. Alors, qui s'explique aussi par le fait qu'à un moment, on lui a dit tu vas garder le même nombre de pages, mais tu parles plus que d'un seul film par semaine, tu parles de trois films. Donc du coup, il va faire un peu des critiques au couteau, ça va très bien fonctionner. C'est un peu des morceaux de rythme. On le voit très bien, batteur de jazz, ce garçon. Quoi. Tac, 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 tac. Ça y va très fort. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce livre. Monsieur Verdoux de Chaplin, qui est son film de chevet. Il y a Offus, il aime beaucoup Chantal Akerman, il en parle souvent de Chantal Akerman. Son ami Alain Cavalier, David Leitch, Rob Reiner, Gia Zanke. Du coup, c'est le livre, c'est une histoire de cinéma, mais c'est l'histoire de cinéma de Philippe Collin. Voilà. Et bon, pour moi, c'est une découverte. Donc, mais une véritable découverte que d'avoir lu, découvert pour la plupart du temps les critiques de Philippe Collin, en fait. Ce que je vais faire, c'est quand même, parce que c'est difficile de parler de ce livre qui est une compilation de critiques de cinéma sans vous citer quelques critiques quelques extraits du livre, parce que franchement je me suis éclaté. Il y a des extraits qui m'ont bien fait plaisir, d'ailleurs. Lorsqu'il parle de La Cité des Dangers de Robert Aldrich avec Burt Reynolds et Catherine Deneuve, il commence sa critique comme ça. Il est facile de mépriser a priori un film au sujet si peu ragoûtant, les amours d'une call girl et d'un flic contrarié par une enquête sur la mort suspecte d'une jeune droguée. Hustle renferme pourtant de merveilleux morceaux de cinéma brutal et spectaculaire dont nos labros et nos verneuils pourraient prendre de la graine. Voilà, c'est dit. Il parle aussi un moment de l'histomania de Ken Russell. Il semble bien que Ken Russell ait définitivement choisi d'exercer sa mise en scène avec la rage obstinée d'un étalagiste hystérique. Je trouve que ça définit assez bien, en fait, effectivement, le cinéma de Ken Russell. Alors, sur un éléphant, ça trompe énormément. Alors, je vais vous lire l'intégralité de la critique. Ah, il aime pas. Mais alors, il aime vraiment pas le film d'Yves Robert. Les Français semblent enchantés de contempler leur reflet dans le miroir que leur tend Jean-Loup Dabadie. Nous savions que ce dernier avait l'étoffe d'un moraliste sans illusion sur ses contemporains. Mais ici, il s'est surpassé. Il faut toute l'élégance de l'interprétation et toute la nervosité de la mise en scène pour nous faire sourire avec l'épopée dérisoire de ces quatre mousquetaires de la veulerie et de la médiocrité. Quand dans 30 ans, on reverra un éléphant, ça trompe énormément, on ne sera pas tellement fier d'avoir vécu en France en 1976. Comme quoi le cinéma politique n'est pas toujours celui que l'on croit. Alors c'est dur, hein, parce que le film a plutôt bien vieilli en l'occurrence, mais il a raison, c'est un film très politique. Voilà. Alors j'aime beaucoup aussi parce qu'il est défenseur parfois de cinéastes que la critique n'aime pas ou de films considérés comme de mauvais films de grands cinéastes. Par exemple, sur Le Juge Fayard, dit le shérif d'Yves Boisset, il écrit « inoffensif guignol gauchisant », diront certains. Bien sûr, Boisset n'a pas encore la classe du Rosie de l'affaire Mattei ou du Brooks de Bal et Masque, mais il est sur la bonne voie, ayant su déjà échapper au piège de la cérébralité façon Corneau, Police Python 357, comme à ceux du pompiérisme à la Costa Gavras. Donc il fait pas de cadeaux, hein. Il aime bien Boisset. Ça fait plaisir de lire un critique qui aime bien Boisset. Et il aime bien aussi Alice ou La Dernière Fugue de Claude Chabrol, qui est pourtant un film pas spécialement apprécié de Claude Chabrol. Lui commence sa critique comme ça. Bourré de références souriantes et d'hommages sans pédanterie, ce film dont Chabrol est l'auteur complet est avant tout une partie de plaisir, le sien d'abord et le nôtre par moment. Voilà, ce par moment, il dit tout en fait du film. Mais je ne puis vous quitter sans vous citer une partie de la chronique qu'il fait, de la critique qu'il fait du film Les Fruits de la Passion, de Shuji Terayama avec Klaus Kinski, une coproduction franco-japonaise érotique soft, comme il en fleurissait partout à l'époque, hein, les histoires d'eau, des films de Jules Jacquin, tout ça. Et je finis par ça, parce que j'adore. Qui n'a pas vu Klaus Kinski seulement vêtu de chaussettes blanches et de chaussures à semelles crêpes s'efforcer de cacher son sexe tout en s'agitant sur la jolie Ariel Dombasle, ne sait pas à quels abîmes de ridicule obscénité peut descendre un cinéaste tombé dans la trappe du porno de luxe à alibi intellectuel. Voilà. Thomas est mort de rire. Non, tu ne me piqueras pas mon bouquin. Voilà. C'est beau une plume comme ça quand même. Hein. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que dans ce livre, vous allez découvrir Philippe Collin. Vous allez pouvoir juger de sa sagacité et de son incroyable humour pince sans rire. En un mot commençant, il est implacable. Je dirais même plus, il est salutaire de lire ce livre à une époque où fleurit sur le net la litote letterboxable d'une pauvreté infamante de nombre de soi-disant critiques en ligne. Voilà. Là, comme on dit, il y a du level. Voilà, donc ça s'appelle Ciné Soliste Critique de Cinéma. C'est de Philippe Collin et c'est paru chez Marest Éditeur. Il y a un troisième livre aussi qui est un ouvrage collectif que je voulais vous signaler, qui est dirigé par Jacques Kebadian, parce que c'est un ouvrage qui est là pour rappeler l'horreur du génocide arménien, qui réunit des témoignages de nombreuses personnalités, mais surtout, c'est un ouvrage qui inaugure une collection qui s'appelle Carte Blanche. Moi, je trouve que c'est un beau geste de la part de l'éditeur, puisque c'est en fait un éditeur qui offre un ouvrage à un autre éditeur. Là, en l'occurrence, à une éditrice qui s'appelle Nicole Brenez, c'est connu, Nicole Brenez, et qui du coup, choisit ce sujet du génocide arménien et invite nombre de personnalités à défendre cette cause. Alors, je ne peux pas tous vous les citer, il y en a beaucoup, de Jean Narboni à Fabien Ribéry, à Napoléon Bulukian, enfin, il y a beaucoup de monde qui a écrit, énormément, Alain Bergala, il y a énormément d'auteurs, et c'est une initiative à soutenir.
Vous écoutez Culture Prohibée, spéciale sortie bouquin.
Je vais rester chez Marest, mais dans la collection Marest Bis, pour vous parler. Alors ça, c'est les petits formats de Marest Éditeur. Et là, il y a des petites pépites. J'aime bien cette collection. On avait reparlé là, du livre qu'il avait ressorti sur les comédies musicales, tout ça. Enfin, vraiment chouette. Et là, il ressort donc David Fincher par Juliette Goffard. Alors, c'est pas mon préféré de la salle voilà, qui ressort, mais c'est un livre vraiment intéressant parce que Juliette Goffard, elle analyse en fait les films de Fincher, ses réalisations, à travers le prisme de lecture des figures du mal. Beaucoup le serial killer, parce qu'il est vrai que le serial killer, il habite vraiment la filmographie de Fincher, et beaucoup Seven et Mindhunter. Mindhunter, cette série géniale, alors qu'il n'a pas fini, hein, voilà, qui raconte l'histoire des types qui ont inventé le profilage. Et en fait, Mindhunter, c'est... vous avez aimé Zodiac, et bien c'est Zodiac sur des tas d'épisodes. Voilà, c'est vraiment, vraiment excellent. Moi, j'aime beaucoup cette série. Elle laisse un peu de côté des films que moi, franchement, je trouve pas réussis, quoi. Même s'ils sont, ils se regardent, mais pas réussis de Fincher, comme Panic Room et L'étrange histoire de Benjamin Button. Qu'un film qui m'ennuie, moi. Voilà. Mais ce n'est que mon humble avis. Mais elle préfère se consacrer à des films plus en phase avec la ligne directrice de son ouvrage. Alors, au fond, ce livre qui évite avec talent hein, les écueils du livre à thèse ennuyeux est avant tout le portrait d'un artiste tiraillé, d'un cinéaste qui n'a de cesse de dévoiler sa part sombre et de la combattre film après film. Le récent Le Tueur, d'ailleurs, hein, d'après la BD française de Mats et Jacomone, est là pour nous le rappeler. On est d'ailleurs en ce moment tous dans l'attente, en fait. Enfin, en tout cas, moi, je suis très impatient de découvrir The Adventure of Cliff Booth, personnage ambigu, anti-héros de Once Upon a Time in Hollywood, puisque c'est le prochain film de Fincher, écrit par Quentin Tarantino. Et je trouve d'ailleurs que, du coup, la ressortie de cet ouvrage dans la collection Marest Bis tombe à point nommé. Hein, pour nous faire patienter. On a très hâte donc de voir ce nouveau film de David Fincher. Alors, autre livre dans cette collection, hein, qui est un livre salutaire, puisqu'il se consacre à Preston Sturges. C'est un livre de Marc Serizuelo. Alors, c'est un livre qui avait été publié initialement en 2002. Très étonnant, parce qu'à l'époque, Marc Serizuelo publie ce livre. Et beaucoup de cinéphiles pensent qu'enfin, on va reconnaître le talent de Preston Sturges, on va se replonger dans sa filmo, qui est quand même globalement méconnue, même de nombre de cinéphiles. Voilà, maître de la comédie américaine, pour beaucoup, mais pas que. Et non, ça n'a pas pris. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il y a eu un engouement, depuis 2002 quand même, hein, sur la filmo de Preston Sturges. Alors, ce qui est du coup très intéressant... c'est de faire reparaître cet ouvrage, de le faire rééditer, parce qu'aujourd'hui, il est important d'expliquer, enfin de se pencher sur Preston Sturges, qui revient quand même souvent, hein. On se rend compte dans des... c'est un très bon scénariste, enfin voilà, c'est très important de se replonger dans sa vie. Alors là, l'auteur, Marc Serizuelo, il se consacre plus à à trois films qu'on considère comme marquants. Il n'a pas une grosse filmo, hein, de toute façon, hein, Preston Sturges. Alors, Les Voyages de Sullivan, Un cœur pris au piège et Madame et ses flirts. Et puis, Risuello explique aussi que, bon, bah, il n'a pas toujours été bien traité par la critique aussi, Preston Sturges. Mais il nous parle quand même aussi beaucoup de l'homme, de qui était Preston Sturges. Donc, bon, bah, dans le livre, il écrit comme ça, un Américain, un flambeur, un désinvolte, le Mark Twain du 7e art, traducteur de Marcel Pagnol, inventeur de l'avion à décollage vertical, troisième salarié le mieux payé des États-Unis, pochetron connu comme les loups blancs dans les bars du quartier des Champs-Élysées, propriétaire d'un restaurant sur Sunset Boulevard, bam, balam, 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 on continue, voilà, il est... Cet homme est tout à la fois inventeur, coureur de jupons, alcoolique, terriblement cérébral, voire intellectuel. D'ailleurs, il est clairement, comme le rappelle l'auteur, l'un des maîtres à son époque, aux côtés d'un certain Billy Wilder, d'une certaine idée de la belle écriture, des beaux scénarios, des comédies ciselées. Étonnant, mais pas tant que ça, puisqu'on en parlait, je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps dans l'émission, avec Denis Rossano, que je salue. Hein. Et ce qui unit les deux hommes, hein, Wilder et puis donc Sturges, c'est vraiment qu'il crée une écriture avec une plume vraiment trempée dans l'acide. Et l'homme va devenir metteur en scène, un conteur assez génial. Il débute avec The Power and the Glory, film dont la construction est tout en flashback, avant un certain Citizen Kane quand même, donc voilà, et avant un certain Orson Welles, qui devait d'ailleurs, je pense, quand Preston Sturges a fait son film, je pense qu'il se baladait en traîneau derrière. Dans le décor comme ça, Orson Welles, et parce qu'il y a des similitudes quand même entre les deux films. Et donc Sturges, toute sa carrière là, elle est retracée, sa vie, mais je vous dis, en se centrant sur ses œuvres les plus importantes, et tout ce qu'on espère, hein, c'est que ça permette de donner des idées à certains éditeurs de ressortir des films. Marc Serizuelo reste, hein, comme son lecteur, à la fin, bouche bée, hein, devant tant de talents. Son ouvrage brillant, hein, qui fait se rencontrer petite et grande histoire, est à n'en pas douter une référence, hein, pour tous ceux qui s'intéressent à Sturges. Qu'il est temps, comme je vous le disais à l'instant, de réhabiliter. Donc on remercie Marest Éditeur de tenter de transformer à nouveau l'essai, hein, qui avait déjà été tenté en 2002, l'essai de Marc Serizuelo. Et puis on souhaite de tout cœur que ça réussisse. Et on va terminer par un livre presque militant, hein, dans la collection Marest Bis. Alors, en tout cas, lors de sa sortie initiale, c'était un livre militant, hein, parce qu'il venait un peu comme ça à la rescousse d'un Bertrand Blier, qu'on disait être un cinéaste un peu fatigué à l'époque où le livre est sorti, un peu en manque d'inspiration. Ce livre, c'est Bertrand Blier, donc de Vincent Roussel, donc livre militant sur le controversé réalisateur des Valseuses et de Buffet froid. Et ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on réécoute quelques extraits d'un échange que nous avions eu donc avec Vincent Roussel lors de la parution initiale de l'ouvrage, donc au sujet de Bertrand Blier. Donc tout de suite, Vincent Roussel au micro de Culture Prohibée. Vous écoutez Vincent Roussel, auteur de Bertrand Blier, ouvrage paru aux éditions Marest, éditeur dans la collection Marest Bis, au micro de Culture Prohibée.
Bertrand Blier, c'était plus, c'est mes amours d'enfance, d'adolescence, j'allais dire, un cinéaste qui m'a très marqué quand j'avais 16-17 ans, quoi, et j'ai voulu revenir un peu sur son œuvre parce que je trouvais qu'on n'en parlait plus beaucoup, en fait. C'est moins une référence qu'il a pu l'être comme dans les années 80. Et ça m'intéressait de revisiter son œuvre, en fait. Effectivement, alors à l'adolescence, c'est vraiment des films qui m'ont marqué de manière durable, quoi. Enfin, c'était vraiment, même pour après tous les films que j'ai aimés, l'épisode Blier, ça a vraiment changé quelque chose dans la façon que j'ai eu d'appréhender le cinéma. Mais en revanche, après, quand j'ai commencé à vraiment me passionner pour le cinéma, mais un peu toute forme de cinéma, j'avoue que certains de ses films, je me suis un petit peu éloigné de lui, en fait. J'allais les voir régulièrement, mais les acteurs, par exemple, à l'origine, c'est un film que j'avais pas tellement aimé. Et quand je l'ai revu, là, je me suis dit, ah, il est plus intéressant que dans mon souvenir. Et pareil, bon, les côtelettes, comme il avait été détesté, j'avais trouvé ça assez drôle, mais bon, je criais pas au génie. Et voilà, mais donc c'était aussi pour moi, voilà, quand à mon âge maintenant, de me dire tiens, je vais essayer de revenir un petit peu, pourquoi ça m'attend plus et est-ce que ça me plaît toujours autant, voire enfin, revenir un peu sur ce passage pour après essayer de voir qu'est-ce qui a pu me plaire et dans son œuvre et essayer d'analyser un peu l'œuvre plus en profondeur. On allait au cinéma pour voir des acteurs, plus que des cinéastes. Et en fait, Blier, il s'est appuyé comme ça sur Depardieu, sur Delon, sur toute l'équipe un peu du Splendide aussi, qui ont tous joué plus ou moins avec lui. Et ces gens-là, ils pouvaient, enfin, ces noms-là, à l'époque, ça pouvait drainer les spectateurs dans les salles. Alors que maintenant, on montre plus, j'ai l'impression, des films sur les acteurs. Je pense que ça l'a bien aidé. Et bah peut-être qu'il correspondait aussi à un certain air du temps. Les Valseuses, quoi, ça fait plus de 5 millions d'entrées, mais c'est, enfin, je trouve que c'est un film qui est tellement ancré dans son époque. Je pense que ça correspondait peut-être aussi à une demande. Donc il reste, c'est pas quelqu'un finalement qui occupe le débat, j'allais dire, des cinéphiles et qui est la grande référence. Mais je pense qu'il reste des traces et. Je pense qu'il est amené à rester. Enfin, on le redécouvrira et enfin, j'espère. Hein.
Mais vous le savez, chers auditrices et auditeurs, après avoir beaucoup causé des dernières sorties, Marest, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je garde toujours le meilleur pour la fin. En l'occurrence, j'ai gardé Thomas Roland. Eh oui, Thomas Roland qui est là dans le studio. Je vous assure, il est comestible et c'est vraiment le meilleur de la bande. Hein. Thomas Roland, toi, tu es venu avec un livre, un livre qui traite un peu de notre histoire locale, en fait, à nous deux, hein, puisqu'on est, on est des petits godets Hauts-de-France, on est des Picards même plus exactement, et d'un livre qui traite donc d'histoire des cinémas dans ce département de la Somme. Donc un livre qui s'appelle La Somme des cinémas. 130 ans d'histoire et qui est paru chez Ancrage Édition et qui est signé Alain Trogneux.
Oui, La Somme des cinémas d'Alain Trogneux. Alain Trogneux qui est historien mais n'est pas historien du cinéma, attention. Alors La Somme des cinémas 130 ans d'histoire, c'est un livre qui retrace les différents cinémas qui ont existé dans la Somme depuis l'invention du cinéma. Un peu, ça commence par le cinéma sous une forme plus foraine jusqu'au multiplex aujourd'hui. Bon, je sais que toi, Jérôme, aussi, comme moi, les multiplex, c'est pas trop ton truc et que nous avons la nostalgie des salles plus humaines, des petites salles et que nous aimons aussi parfois aller dans des petites salles qui sont encore dans des petits villages où les salles sont, où des sièges sont rouges.
Un petit coucou à la salle Hollywood Avenue à Montdidier où je vais régulièrement et également au cinéma Jeanne Moreau de Saint-Just-en-Chaussée, des cinémas mono-écran dans lequel on se sent bien.
Oui, des cinémas dans lesquels on se sent bien, où il y a vraiment une réelle humanité, voilà, contrairement au multiplex, où en plus les conditions de projection ne sont pas toujours réunies. Bref. Donc c'est un livre qui recense ces différentes salles qui ont existé dans la Somme depuis l'invention du cinéma, mais pas uniquement. Donc il y a des photos, c'est illustré par des photos, c'est un livre, un beau livre, papier glacé, des photos en noir et blanc. Hein. Et donc en plus des salles, c'est aussi un livre qui retrace notamment tous les acteurs qui sont originaires de la région ou qui sont passés par la région, qui ont œuvré dans le cinéma. Donc ça peut être les directeurs de salles, les directeurs de festivals, les acteurs, les actrices, les réalisateurs, les réalisatrices. Notamment, j'ai appris que Fabrice Eboué est passé par la Providence. La Providence qui est un établissement scolaire privé à Amiens. Donc Fabrice Eboué est passé par là, entre autres. Et il y a aussi, ça recense aussi les différents festivals qui existent et qui ont existé dans la région. Donc ça peut être le Festival du film d'Amiens, le Festival du cinéma britannique à Abbeville, des petits festivals qui n'ont eu qu'une édition, et aussi ça recense tous les films qui ont été tournés dans la région. C'est, bon, par contre, j'ai remarqué que c'est pas exhaustif. Il manque quelques personnalités, notamment des personnalités que nous connaissons, qui sont réalisateurs. Hein, Olivier Félibiollet et puis Éric Baudoulet-Sosso ne sont pas dans le livre. Pourtant, ils ont fait des films, hein, chacun. Et, donc, c'est un livre que moi, je recommande vivement à tous les amoureux du cinéma, de ces salles... que nous avons connu peut-être la génération plus jeune, moi je regrette un peu les salles du centre-ville d'Amiens, le Paris, le Picardie, où il y avait encore les photos d'exploitation dans le hall.
Les trois artels à Compiègne, j'ai connu, qui n'existent plus. Parce qu'à Compiègne, il y avait eu les Dianes, et je dis ça pour les locaux qui nous écoutent, on enregistre à Compiègne, il y avait les Dianes, il n'y avait pas du tout de multiplex. Il y avait les Dianes, cinéma très classieux, qui existe toujours mais qui n'est plus exploité, qui sert à autre chose, voilà, aujourd'hui. Et puis, il y avait les Trois Artels, qui étaient un autre cinéma, voilà. Ces écrans 4 tiers aussi, je me rappelle. Je me rappelle aussi du cinéma de Noyon, qui avait plusieurs salles, c'était le grand luxe quand même, à Noyon, il y avait plusieurs salles, mais c'était toute petite salle, en fait. Je me rappelle de cette salle dans le cinéma Les Dianes, à Compiègne, où il y avait, je me rappelle avoir vu un Dario Argento, avec, il y avait une soufflerie juste au-dessus qui envoyait du C'est contribué au charme de ces cinémas-là, en fait. Voilà.
Alors, ce n'est pas que de la nostalgie, hein, parce que ça montre aussi comment le cinéma a évolué, comment la façon de distribuer le cinéma, de le projeter, et aussi la façon dont on le consomme. Parce que, pour moi, dans un multiplex, on consomme du cinéma plus qu'on... C'est pas, pour moi, c'est pas forcément... Il y a, bien sûr, des cinéphiles qui fréquentent les multiplex, mais pour moi, c'est plus un temple de la consommation avec une large part à la confiserie, parce qu'ils se font beaucoup de marge sur la confiserie, plus que sur les places de cinéma. Donc, c'est aussi donc, un livre d'histoire de comment le cinéma évolue, comment on l'apprécie à travers l'histoire. Et puis, ça permet de voir aussi toutes ces personnalités qui ont contribué à le faire connaître dans la région, que ce soit des réalisateurs, des réalisatrices, des distributeurs, des tenanciers de salles, des directeurs de salles ou de festivals, etc. Donc, c'est un livre que je recommande vivement.
Moi, je suis d'abord cinéphile. J'aime beaucoup le cinéma, que je pratique depuis ma tendre enfance. J'avais fait un peu un premier travail universitaire il y a fort longtemps sur les lieux de loisirs en fait à Amiens. Et puis, je m'étais intéressé en fait aux différents établissements qui étaient présents en fait dans la capitale picarde. Et puis, bien après, j'avais envie de faire quelque chose sur le cinéma depuis très très longtemps, parce que je trouvais que ça manquait, le fait de se réapproprier les lieux en fait où on avait vu de nombreux films, que moi-même où j'avais vu de nombreux films quand j'étais étudiant ou adolescent, etc. Donc, et je m'étais aperçu en fait Amiens une singularité, un nombre assez impressionnant en fait de salles. Même si on compare à d'autres villes françaises.
Combien de temps, quelle a été votre méthodologie? Combien de temps ça vous a pris pour écrire ce livre?
C'est simple, c'est-à-dire que mon dernier livre datait de 2021, juste au moment du confinement. Et donc, je m'y suis mis juste après, donc ça représente à peu près 4 années de travail. 4 années de travail entre, disons, le recensement des différentes salles. Le fait également d'interviewer les témoins, fort nombreux, hein, que ce soit à la fois des exploitants, des propriétaires de salles, que ce soit également des acteurs, des metteurs en scène. Ensuite, la logistique des tournages, hein, bien sûr, et puis également les festivals. Donc en gros, c'est un ouvrage qui a été réalisé entre 2021 et 2025.
Et en ce qui concerne les documents, les photos, là je vois au dos du livre, il y a des vieux tickets de cinéma, tout ce qui est photos, toutes ces archives-là.
J'ai beaucoup travaillé aux archives, alors que ce soit les archives départementales de la Somme, que ce soit les archives municipales et communautaires d'Amiens Métropole. Et puis aussi, je suis allé à la pêche aux documents, c'est-à-dire qu'en interviewant les différentes personnalités, j'ai demandé s'ils avaient eux-mêmes des pièces un petit peu sympathiques. C'est pour ça que j'ai retrouvé notamment ces tickets de cinéma. Là, vous avez le ticket du Trianon. Il y a aussi le ticket, je crois, voilà, du Casino d'Albert. Ça, c'est les pour le Casino d'Albert. J'ai interviewé le petit-fils en fait de l'exploitante qui s'appelait Viviane Boutin. Pour le Trianon, je suis allé quasiment au Trianon, et puis dans le grenier, il y avait encore les anciennes souches en fait des tickets de cinéma, quoi.
Et vous avez rencontré en dehors des gens qui travaillent dans le cinéma, des particuliers pour avoir des témoignages?
Vous savez, il faut faire beaucoup de porte à porte, donc j'ai sillonné un peu les routes du département et quelquefois. Je sais pas, je voyais que à cet endroit il y avait un cinéma. Bah, je suis allé taper chez le voisin qui m'a confirmé ou infirmé. Et quelquefois, il avait des petites anecdotes à me raconter, soit sur tout ce qui concernait en fait le cinéma, sa fréquentation, ou sa fin, ou sa disparition, vous voyez. À l'époque, ça c'était très intéressant, quoi.
Et donc tous les cinémas de la région sont archivés aux archives départementales.
Aux archives départementales, la difficulté c'est de trouver les bonnes sources. Parce que comme vous avez, je sais pas, par exemple, le département de la Somme, il y a à peu près 40 km d'archives linéaires, donc ça représente des millions de documents. Donc il faut bien connaître, bien sûr, les instruments de recherche. Et puis voir à quel moment on a commencé à s'intéresser à l'industrie cinématographique. En fait, on a commencé à s'intéresser à l'industrie cinématographique au moment en fait de la sécurisation en fait des lieux. Donc à partir de 1910-1911, il y avait une loi qui obligeait finalement à avoir une réglementation parce qu'on accueillait bien évidemment du public. Donc on retrouve ça dans les archives, par exemple de la police, des différents commissariats. À partir des années 30, vous avez la grande enquête départementale qui ressemble l'ensemble des cinémas, ce qui montre que, par exemple, le département de la Somme avait 365 salles, c'est absolument énorme. Ça veut dire que pratiquement une commune sur deux était concernée en fait par le cinéma. Donc vous avez les rapports de préfecture qui vous indiquent à la fois le nom du propriétaire, la capacité, le circuit de distribution, enfin. Il y a tout un tas d'éléments qui sont très intéressants. Et bien évidemment, ensuite, ça se multiplie avec l'âge d'or du cinéma dans les années 30, puis ensuite dans l'après-guerre.
Et les photos qui illustrent le livre, des photos de salles au début du 20e, d'exploitants de salles du début du 20e, elles sont aux archives départementales?
Alors, il y a à la fois aux archives départementales, il y en a quelques-unes. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait une conférence, dans ce lieu en décembre dernier. Mais il y en a aussi beaucoup par l'intermédiaire des particuliers, ce que j'ai pu collecter, glaner, quoi. Bien sûr, c'est un travail de longue haleine de collecte. Mais les archives, par exemple, les archives municipales et communautaires d'Amiens possèdent un bon fonds photographique, bien sûr, sur les différents établissements amiénois.
Est-ce que vous avez fait des rencontres en particulier? Est-ce que vous avez des anecdotes au cours de ces 4 ans d'enquête pour écrire ce livre?
Oh, mais il y en a beaucoup. La difficulté, bien sûr, c'est de les sélectionner. Je me suis intéressé, par exemple, à Amiens, il y a un cinéma qui s'appelle le Picardie Y. D'ailleurs, je me demandais toujours pourquoi Picardie Y et non pas la Picardie IE. Après, j'ai compris qu'à l'origine, il y avait un premier Picardie qui se trouve toujours à Péronne. Le cinéma de Péronne s'appelle le Picardie. Alors pourquoi Picardie Y? Tout simplement parce que son exploitant à l'époque était un ressortissant britannique qui s'appelait George Das. Et donc ce monsieur avait d'abord bâti un premier cinéma, comme beaucoup d'ailleurs, qui s'appelait les Modernes. Et à partir de là, il avait connoté son cinéma à l'anglaise. Et comme le principal investisseur, qui était Élie de Fesquet, avait mis des parts dans le cinéma de Péronne, il a fait la même chose à Amiens, voilà, et il a baptisé son cinéma, bien évidemment, du nom de Picardie. Voilà une anecdote. Moi, je ne savais pas, d'ailleurs, à l'origine, qu'il y avait autant de sujets britanniques qui s'étaient intéressés, en fait, au cinéma. Dans les débuts du cinématographe.
Alors, Alain Progneux, vous êtes l'auteur de La Somme des cinémas, 130 ans d'histoire. En écrivant ce livre, qu'avez-vous constaté sur la place du cinéma, de son histoire au sein d'une région ou même du pays ?
Ben, c'est très important sur le plan culturel, parce que il faut voir que ça a brassé, bien évidemment, au cours des différentes décennies, je dirais des millions de spectateurs. Hein. C'était le spectacle numéro un, la distraction première, bien avant, par exemple, les activités sportives ou les spectacles sportifs. Il faut bien voir qu'à partir de 1920, donc après la Première Guerre mondiale, il y a une assise cinématographique qui se montre au niveau du territoire, si vous voulez. Hein. Moi, j'étais quand même assez impressionné de voir qu'une ville comme Amiens avait quand même une quinzaine de salles. Hein. Vous voyez, c'est beaucoup plus que d'autres villes, par exemple, en France, hein, et que chaque quartier, véritablement, avait son cinéma. Hein. Et ça m'a semblé vraiment quelque chose de primordial, vous voyez, dans cette recherche.
Vous écoutez Alain Trogneux, auteur de La Somme des cinémas, 130 ans d'histoire, disponible aux éditions Ancrage, au micro de Culture Prohibée.
Et aujourd'hui, il y a un exploitant, et je l'ai entendu dire dernièrement, que Amiens était sous-équipé en salle de cinéma. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Amiens, comment dire, maintenant, sa représentation cinématographique tourne essentiellement autour du multiplex, qui est le multiplex Pathé. Voilà. C'est un juste retour des choses, puisque le tout premier cinéma d'Amiens était un cinéma Pathé. Donc, et puis à côté, on a ce qu'on appelle le cinéma Saint-Leu, hein, qui est l'héritier d'ailleurs du régent que les Amiénois ont beaucoup apprécié pendant plusieurs décennies. Il semble bien qu'Amiens aurait besoin peut-être de 3 ou 4 salles supplémentaires. C'est peut-être un projet à venir au sein de la nouvelle municipalité. À suivre, bien sûr.
Que dit l'histoire des salles de cinéma sur l'évolution du cinéma dans la société ? En écrivant ce livre, qu'est-ce que vous avez constaté de son évolution au sein de la société, sa distribution, sa perception ou la façon d'aller au cinéma ?
Moi, j'ai trouvé que le cinéma, en fait, uniformisait, en fait, vous voyez, les goûts. C'est une activité souvent qu'on pratique en famille. Et disons que le cinéma a accompagné la façon de se vêtir, la façon d'avoir de nouveaux goûts, d'utiliser la cigarette, d'entendre de nouveaux sons, de nouvelles musiques, de voir les choses au niveau de l'international. Il faut bien voir que pendant très longtemps, le cinéma aussi était un média, puisque c'était au cinéma qu'on avait les fameuses actualités, avant que les actualités télévisées en fait ne les remplacent au milieu des années 60. Donc on y allait en famille, c'était un spectacle, une distraction extrêmement prisée. Après, bien évidemment, la technologie nouvelle, bien évidemment, a remplacé souvent ce support, et notamment auprès des jeunes générations, hein, puisqu'on se rend compte quand même qu'à l'heure actuelle, la jeune génération va beaucoup moins en fait au cinéma qu'elle n'a passé.
Et à votre avis, le cinéma tel qu'on le connaît, c'est-à-dire aller en salle, ensemble, se mettre dans une grande salle noire, obscure, qu'est-ce que vous voyez comme avenir pour le cinéma, vous en tant que cinéphile, en tant qu'historien
On a souvent dit que le cinéma pouvait rencontrer un certain nombre de difficultés, et ça depuis en particulier l'arrivée massive de la télévision. Hein. Après, il y a eu Internet, il y a eu les supports. Mais je pense qu'on aura toujours besoin en fait, de se retrouver pour partager un très beau film dans une salle obscure. Il y aura sûrement des modifications dans les années prochaines. Mais je pense que le public du cinéma, qui reste quand même très très important, reste un public fidèle. Ne serait-ce que dans le département, c'est quand même un public de l'ordre de plus du million de spectateurs chaque année qui fréquentent les salles obscures, ce qui reste très très important.
N'y a-t-il pas un vieillissement de la population qui va au cinéma, plus particulièrement des salles art et essai?
Là, c'est difficile. Hein. Il faudrait plutôt, interroger, disons, les responsables de salles d'art et essai. Il est certain que le film art et essai nécessite quand même une certaine approche et qu'il y a tout un travail en amont qui quelquefois précède justement la vision du film. Et c'est vrai que quelquefois la jeune génération ne se retrouve pas, vous voyez, dans ce type de film. Donc dans les années qui viennent, bien évidemment, il y aura peut-être de la part justement des exploitants de ce type d'établissement, sûrement une refonte pour effectivement croiser et amener, je dirais, un public, un jeune public, si vous voulez. Même s'il y a, à l'heure actuelle, je pense, énormément de travail qui est fait en direction, justement, des scolaires, je dirais, des étudiants, pour les amener, en fait, à fréquenter les salles obscures et non pas à fréquenter simplement le smartphone, hein, voilà.
Mais alors, est-ce qu'on regarde les films de la même façon aujourd'hui qu'au début du 20e ou à la fin du 19e quand le cinéma est né?
Vous savez, au tout début du cinéma, il faut bien se rendre compte que le public n'était pas un public très très averti. Hein. Donc c'était un public qui allait, venait en fait dans les salles, qui sortait, qui allait boire un coup. C'était un public bruyant, le même type d'ailleurs qu'on rencontre d'ailleurs au théâtre. Hein. Après, on a toujours eu l'impression finalement que fréquenter une salle, que ce soit une salle de théâtre, une salle de spectacle, une salle de cinéma, il fallait être respectueux, etc. Il fallait faire très très attention. C'est progressivement qu'on est venu en fait à ce type, je dirais, d'intervention en fait dans le cadre des salles. Mais je pense que effectivement. Il y a eu une évolution, si vous voulez. Ça, c'est on peut pas se le cacher, bien évidemment, sur la pratique en fait de fréquentation des salles.
Alain Trogneux, vous êtes cinéphile. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de cinéma, vous, en tant que spectateur cinéphile?
Écoutez, j'y vais assez souvent. Je ne suis pas quand même quelqu'un qui va tous les jours au cinéma. J'ai vu dernièrement la Vénus électrique, voilà, de Salvadori. J'ai vu également le film consacré à Samuel Paty, L'Abandon. C'est les deux derniers films que j'ai vus, quoi. Et moi, j'aime tout. Tous les genres de films, en fait, vous voyez, et j'essaye de voir en moyenne un ou deux films par semaine, hein, voilà. Il faut dire que j'ai commencé très tôt, quoi, parce que c'était mon père qui m'envoyait au cinéma de quartier. Je devais avoir 3-4 ans à l'époque, et à l'époque, moi, ce qui me plaisait, c'était bien évidemment les films d'aventure. Les westerns, les péplums. Et puis après, en grandissant, on se fait sa petite filmographie en fonction de ses envies. Hein, parce que le cinéma, c'est d'abord un plaisir.
C'était donc Alain Trogneux, l'auteur de La Somme des cinémas, 130 ans d'histoire, livre paru aux éditions Ancrage.
Avant de nous quitter pour l'été, nous voulions vous signaler plusieurs ouvrages passionnants dont notre équipe vient d'entamer la lecture. Ces livres, nous vous en causerons à la rentrée. Nous en profiterons même pour inviter certains de leurs auteurs. Alors, il y a Avec ma bite et mon couteau. Et oui, quel titre, Avec ma bite et mon couteau, René Viennet, cinéaste. Un livre disponible chez Marest Éditeur, de et avec René Viennet, vous comprendrez quand on en parlera. Il y a aussi De vrais cinglés de cinéma à la salle avec amour et acharnement, copublié par RQM Édition. Alors RQM, c'est pour Requiem. Et Monotone Édition, un livre signé Sixtine Audebert et Samuel Guirand, dont on vous parlera également. Et puis, on abordera deux livres disponibles chez Artus. Alors ceux-là, ils vont sortir en septembre, mais on a un peu privilège de la critique. On a pu les feuilleter et ça va être du lourd. Alors il y a Vous avez dit, Bis, Art, d'Alain Petit, et puis Backstage, la biographie, enfin l'autobiographie de Fabio Frizzi. Donc tout ça, on vous en parlera à la rentrée. Puis enfin, même si c'est pas un livre, je tenais à vous signaler la sortie d'un de mes films de chevet qui est signé Billy Wilder chez Rimini Éditions, Stalag 17. Et ça, on en causera également à la rentrée. Voilà, et on vous souhaite, toute l'équipe de Culture Prohibée vous souhaite de bonnes vacances. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et Radio Graphite, graphite.net. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Une émission animée avec Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.